I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Freddy. Alors, la particularité de Freddy, c'est qu'il n'a pas mis ses trois filles à l'école, pas du tout. Ses enfants sont donc non-sco, comme on dit, comme non scolarisé. Ensemble, on discute de son parcours qui l'a amené à considérer qu'il vaut mieux pour ses filles de ne pas aller à l'école que d'y aller, de l'éducation qui en découle et aussi, bien entendu, des réactions de son entourage. Le point de vue de Freddy m'aura vraiment interpellé à plein d'aspects et j'ai adoré pouvoir discuter avec lui et j'espère que cet épisode vous plaira tout autant. Si vous aimez Histoire de Daron, abonnez-vous au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast sur iPhone ou Google Podcast sur Android, mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, Spotify, SoundCloud ou même sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans les notes du podcast. Et aujourd'hui, c'est une date un peu particulière pour moi puisque c'est le lundi 1er octobre 2018 et Mademoiselle a 13 ans. Alors pour fêter ça, je vous propose de découvrir tous les podcasts qu'on crée sur Mademoiselle. Il y en a plein, vous verrez. Je vous ai mis tous les liens dans les notes du podcast. Enfin, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai été invité par le Paris Podcast Festival qui aura lieu du 19 au 21 octobre à la Gaîté Lyrique à Paris pour faire un épisode en live d'Histoire de Daron. Donc ça se passera le dimanche 21 octobre en tout début d'après-midi. Ça sera mon premier épisode d'Histoire de Daron en live. Si vous êtes à Paris à ce moment-là, j'ai hâte de vous y voir. Ça va être marrant comme tout. J'en ai terminé pour l'intro. Je vous laisse en compagnie de Freddy pour parler d'école, ou plutôt de ne pas aller à l'école. Et je vous donne rendez-vous à la fin de l'interview. On est avec Freddy. Salut Freddy.
Salut.
Ça va?
Très bien, oui.
Merci de venir jusqu'à moi, Freddy. Ça me fait plaisir.
Bah, moi aussi, ça me fait très plaisir.
Alors, c'est ta fille qui m'a envoyé un mail, hein, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Je ne sais plus laquelle des
c'est Oriane.
C'est Oriane qui a su ce que tu faisais et qui a pensé que peut-être je serais un bon candidat pour tes interviews.
Donc, merci beaucoup, Oriane. Je reçois beaucoup de... Je fais une petite parenthèse, mais je reçois beaucoup de mails de la part d'enfants, en général, qui me disent « Mon père, il serait génial.
Ah » oui.
Et la plupart des pères, en général, quand ils finissent... Moi, je leur dis « Bah, ok, mais il faudrait qu'il m'écrive lui-même, si tu veux.
Oui. »
Et la plupart des pères, en général, ne donnent pas de suite parce qu'ils...
Ah oui.
Peut-être ils ont peur de moi, je peux comprendre.
Ouais. Bah non, moi, ça m'a amusé. Quand elles m'ont dit ça, j'ai dit « Ouais, pourquoi pas ?» Et puis on s'est rencontrés. Ouais.
Eh ben trop bien. T'as une particularité en fait, Freddy, dans l'éducation de tes enfants en tant que daron.
Oui. Alors la particularité, c'est pas l'éducation, puisque c'est un acte, c'est plutôt la non-éducation. Donc c'est un manquement en fait. C'est quelque chose qu'on ne fait pas.
T'appelles ça un manquement?
Oui.
D'accord.
Je,
okay.
je fais rien de particulier.
Okay.
Mes enfants, comme toi, comme mes voisins, comme mon épouse, comme tous les gens avec qui j'interagis, sont des gens respectables et que je respecte et que donc j'interagis avec eux. Mais je les éduque pas, je les enseigne rien. Je suis là avec eux. S'ils ont besoin de moi, je suis là. S'ils n'ont pas besoin, je suis pas là. Voilà.
D'accord. Alors, l'un des trucs, moi, si j'ai bien compris, c'est que tes enfants ne sont pas scolarisés.
Elles ne sont pas allées à l'école, oui.
Ouais.
Elles ne sont pas allées à l'école, oui, effectivement. En fait, quand Oriane est née, à sa naissance, j'ai trois filles.
T'as trois filles.
J'ai trois filles. Oriane, qui est l'aînée, Leline, qui est le deuxième, et Lila. Donc, elles ont entre 13 et 19 ans maintenant, okay. Bientôt. Et donc, à la naissance d'Oriane... on était à l'hôpital, puisque Oriane est née à l'hôpital, contrairement aux deux autres.
Ils sont nés où ?
À la maison.
Ok, d'accord.
À la maison, dans mes mains, à moi.
Ah ouais, classe.
Voilà, voilà. Et du coup, on était encore à l'hôpital, et tout d'un coup, j'ai senti que, c'est ce jour-là, à la naissance, que j'ai senti que, waouh, je vais m'occuper de quelqu'un. Je vais prendre des décisions pour ce quelqu'un. Et puis, au nom de quoi, pourquoi, qu'est-ce que je déciderai, est-ce que je ferai ce que je veux, mais qui suis-je pour vouloir quelque chose pour quelqu'un d'autre? Et donc, toutes ces idées-là passaient dans ma tête. Et au bout de, je ne sais pas, quelques heures, le mot école et l'école et la scolarité apparaît dans ma tête.
Tout de suite
Au bout de quelques heures. Okay. Voilà, on était là encore. Voilà. Du coup, je me suis posé la question. Un jour, je vais lui dire, ma chère Oriane, à partir de demain, tu vas aller à l'école. Et ça, pendant 12, voire plus, oui. le restant de... Enfin, une bonne partie de ta vie, tu seras là-dedans. Et je me suis demandé, et si elle me dit pourquoi, il faut que j'ai une bonne raison convaincante pour lui dire, oui, parce que... Et j'ai cherché, et puis je me suis rappelé de moi, mon enfance, mon école, qu'est-ce que l'école m'a apporté. Et plus j'ai réfléchi, moins j'ai trouvé de réponse. Et du coup, et puis voilà, on est 19 ans après aujourd'hui, et en fait, je ne sais pas pourquoi on le ferait.
Comment ça ?
Pourquoi on irait à l'école ? C'est tellement...
T'as toujours pas la réponse.
J'ai pas, toujours pas la réponse. C'est pourquoi la société a créé cette organisation ? Pourquoi... C'est comme si je te demandais, pourquoi tu vas pas en Nouvelle-Zélande demain ?
C'est vrai.
Tu pourrais y aller, mais il faut une motivation. Mm. Il faut quelque chose. Et donc, quelle est la motivation pour que à 3 ans ou à 6 ans, on prenne son enfant et on lui dit pendant 12 ans, tu vas aller à un endroit. Et l'absence, n'ayant pas de réponse à ça, du coup, j'ai dit que je vais pas l'envoyer, du coup. Et donc, a commencé une période assez difficile parce que il fallait que j'en parle à la maman, qui était prof. Elle est prof.
Okay.
Donc, je l'ai pas parlé tout de suite parce que pendant un an, j'ai ruminé ça dans ma tête. Je voulais vraiment être sûr que ce que moi je ne trouve pas de réponse, c'est pas parce que il me manque quelque chose, c'est pas que il y a quelque chose d'absolument nécessaire et je suis en train de rater, je suis en train de passer à côté. Donc j'ai vraiment réfléchi longuement.
Comment t'as vécu, toi,
très bien.
Ta scolarité.
Très bien. Non, très bien. J'ai une scolarité. J'étais dans une école très bien. On allait à mi-temps à l'école, donc on n'était que le matin, pas l'après-midi. C'était vraiment l'école idéale.
Où est-ce que tu allais à mi-temps à l'école ?
Alors, je suis iranien, donc okay. Je suis né en Iran. J'étais dans une école française à Téhéran. Et c'était une espèce d'expérience. C'était une école expérimentale de laisser les enfants que... Alors, en plus, donc on allait que le matin, mais on avait deux séries de profs. On avait les profs iraniens et les profs français. Et on faisait tout en double. L'histoire en double, la géographie en double et les maths en double. Bon, le persan, on le faisait qu'en persan et le français qu'en français. Mais hop, l'anglais, on le faisait en double. On a un prof persan d'anglais, un prof français d'anglais. Et donc, voilà. Et ce qui était... Puisque tu as ouvert la parenthèse de l'école. Et j'avais constaté que... par exemple, notre prof d'histoire, quand il parlait de l'histoire d'Iran, le prof persan, bon, c'était l'histoire officielle. Et le prof français parlait de l'histoire officielle française aussi. Donc, aucun des deux ne critiquait ce que l'autre avait dit. Mais quand il parlait de l'Union soviétique, par exemple, à l'époque, il disait des choses différentes. Et il fallait qu'on se souvienne, en tant qu'élève, que, pour le prof persan, l'Union soviétique, c'était ça. Pour le prof français, c'était ça. Pour le Liban, pareil. Tous les pays qu'on a étudiés en géographie ou en histoire, c'était pareil. Et même en maths, c'était différent. Le prof iranien, il préférait les arguments géométriques. Le prof français préférait les arguments analytiques. Et du coup, selon qu'on avait plus tendance à l'un ou l'autre, on pouvait réussir ou échouer avec l'un ou l'autre. Du coup, tout ça...
Tu penses que ça t'a marqué, toi, ce double enseignement qui te montrait un peu à chaque fois différentes facettes où tu te disais, en fait, en vrai, on peut apprendre A ou B en fonction de la personne qu'on a en face de nous ?
La chose que ça a marqué, que les adultes, on ne peut pas trop leur faire confiance. Ils racontent des choses bizarres et voilà. Mais j'étais heureux à l'école, j'étais bien. J'ai jamais considéré mais pourquoi je suis en train de venir. Comme tout le monde, il y a des jours où je voulais pas y aller. Du coup, j'ai simulé une maladie. Ouais. Ou, voilà, mais Mais de manière générale, je l'ai fait tout à fait bien. Mais à 40 ans, quand Oriane est née, je me suis posé la question, qu'est-ce que cette école m'a apporté ? Parce qu'aujourd'hui, bah, je sais des choses, j'ai un métier, je fais des trucs, mais je regarde, est-ce que mon savoir vient de l'école, de la fac ou de mon expérience ? Et c'est quasiment toujours de l'expérience. C'est jamais un prof assis derrière son bureau qui m'a dit « voilà telle chose » et je dis « ah oui, c'est très bien, c'est ça » et que ça m'a été utile professionnellement, intellectuellement, dans la vie, pour tout.
T'as pas eu des profs qui t'ont, à un moment donné, changé vraiment de façon... Alors, moi j'en ai eu hein, assez peu dans ma scolarité, mais j'en ai eu peut-être un peu moins d'une dizaine qui m'ont vraiment montré une toute autre façon de penser et qui m'ont vraiment changé, tu vois, sorti de ce que ma famille aurait pu m'apprendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas ? T'en as eu, toi,
oui.
Des comme ça ?
Ah, j'ai eu des bons profs, j'ai eu des gens exceptionnels, ouais. qui ont confirmé mes goûts. Par exemple, j'aimais bien la science et les maths. Mm. Et du coup, bon, on avait des profs de maths nuls parfois, mais il y en avait des gens exceptionnels qui, effectivement, je me disais, ah oui, quand je serai grand, je voudrais être comme lui. Pareil, on avait une fois même un prof de persan, de langue, de grammaire persane. C'était un homme d'une érudition exceptionnelle. Et du coup, ça donnait envie d'être littéraire, quoi. Voilà, mais bon, je suis pas devenu, mais parce que c'était pas mon truc. Mais bon, effectivement, c'était des gens motivants et bien. Mais moi, ma voix, je voulais être scientifique. Et oui, voilà, je le suis plus ou moins devenu, mais ça m'a pas. Je peux pas dire que c'est eux qui
m'ont.
Enfin, c'est moi qui ai fait, et puis ils m'ont aidé, ils étaient là, ils étaient des bons ou mauvais exemples. Mais c'est moi qui a pris la partie qui était bonne et la partie que je jugeais pas bonne.
D'accord, ok. Alors revenons à ton dilemme, parce que pendant un an...
Donc pendant un an, du coup...
Tu ne voulais pas envoyer ton enfant à l'école.
Voilà, je rumine ça dans ma tête. Et puis un jour, j'en parle à Claudia, la maman. Et évidemment, elle n'est pas d'accord. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ça ne veut pas. Et pendant 3 ans, tous les soirs, en rentrant du bureau, on a discuté pendant 2, 3, 4 heures. Voilà, c'était quotidien pendant 3 ans. Mais donc, elle n'était pas d'accord, mes parents n'étaient pas d'accord, mes beaux-parents n'étaient pas d'accord, et je voulais avoir des relations familiales cordiales avec tout le monde. À un moment donné, nos voisins de palier n'étaient même pas d'accord. Tout le monde avait un avis. Au bureau, mes collègues n'étaient pas d'accord. Enfin, je me suis senti seul au monde pendant 3 ans. Et puis, c'est Claudia qui, sur Internet, a trouvé une association de parents qui ne scolarisent pas leurs enfants, qui s'appelle l'EDA, les enfants d'abord. Et on était, je ne sais pas, en début août, et elle a dit, ah ben cette association, ils font une rencontre fin août, est-ce que tu voudrais y aller ? Ah, j'ai dit, bah oui, on y va. Donc on est allé, on est rentré, et tout d'un coup, on rentre dans une association, il y a 300 autres parents, il y a des centaines d'enfants, et on les voit, ils sont bien, ils sont bien dans leur peau, des gens tout à fait fréquentables, enfin, il n'y a rien de... et voilà, et du coup, moi, ça m'a gonflé, enfin, ça m'a sorti d'abord de ma solitude. Je me suis dit, ah bah,
je ne
suis pas seul au monde, mais il y en a, cette pression sociale s'est divisée par 300 tout d'un coup. Voilà, on est 300 à le supporter et pas seul. Et à ce moment-là, donc Oriane avait 3 ans, et on allait le mettre à l'école.
C'était
l'âge qui allait arriver. Et j'avais, au bout de 3 ans, j'avais cédé à Claudia que, bon, à mi-temps, si elle va à l'école, je veux bien, mais pas plus. Je veux que le reste de ton temps, elle se découvre. Elle découvre le monde, elle fasse ce qu'elle veut, et pas en classe, c'est pas là où ça se passe. Et elle avait accepté, voilà. Et donc, on est allé à l'école qui était en face de chez nous, et la directrice avait dit que bien sûr que non, c'est soit tout le temps, soit jamais, mais à mi-temps...
C'est pas la carte, monsieur.
Voilà, c'est pas la carte. Et du coup, voyant cette association juste une semaine avant l'ouverture de l'école, je me suis dit non, même le mi-temps, je n'accepte pas.
ça t'avait donné confiance.
Ça m'avait donné confiance, oui, tout à fait. Et du coup, et ça a changé la vie de ma femme aussi. En voyant qu'il y a d'autres gens tout à fait respectables qui ont fait ce choix-là, ils sont bien dans leur peau et qu'ils sont heureux de leur choix, elle aussi, elle a accepté. Et puis voilà, depuis...
Donc ta femme, qui est prof,
voilà,
a sciemment décidé de ne pas envoyer
ses enfants
à l'école.
Voilà. Donc on avait, en fait, les 3 ans de discussion, je l'avais convaincue quasiment sur tous les aspects. Savoir, connaissance, et voilà, plein de choses. On l'avait décortiqué finement et elle était d'accord qu'elle voyait elle-même en tant que prof. Elle était prof d'histoire géo, donc elle disait que quand elle enseigne un chapitre et elle pose des questions la semaine d'après, bon, tout le monde sait à peu près. Mais 3 mois après, les mêmes élèves où elle a enseigné, donc elle connaît sa valeur, elle connaît ce qu'elle a dit, elle sait ce que ses enfants savaient il y a 3 mois, ses élèves savaient il y a 3 mois, tout d'un coup, bon, tout est oublié. Et je lui ai dit, on n'a aucun souvenir. Elle m'a dit, oui, mais toi, t'as pas aimé l'histoire, du coup, t'as oublié tout. Et je lui ai posé des questions de maths. J'ai dit, toi, t'as pas aimé les maths et t'as oublié tout. Voilà, c'est exactement pareil.
Ceci dit, c'est elle qui avait fait la démarche d'aller chercher cette association sur Internet.
Ouais,
donc,
voilà,
si tu veux,
tout à fait.
Elle avait déjà aussi...
Non. Elle était prête à faire le pas parce qu'elle voyait le système de l'intérieur aussi. Elle voyait qu'un certain nombre de choses que je disais n'étaient pas totalement aberrantes. Mais son argument massu premier, c'était que oui, mais où est-ce qu'ils vont trouver des copains et copines ?
L'aspect social, donc.
Oui. Copain, copine, oui, social, c'est on a des amitiés, voilà, c'est ça quand on est petit ou même quand on est grand, on a des potes. On ne dit pas, oui, je suis en train de faire une éducation sociale ou je suis en train de m'insérer dans la société. Non, on y est dedans. On est dedans et on a des potes, on a des fréquentations plus ou moins proches, puis voilà, c'est comme ça. Et donc, j'ai dit, oui, c'est un problème, effectivement, puisque tous les enfants sont capturés par l'école, en dehors de l'école, pour ma fille de 3 ans, un mardi à 3 heures de l'après-midi, il n'y a personne. Donc c'est un problème, mais voilà, les problèmes, on les règle, on se soumet pas que du coup on va faire comme tout le monde parce qu'on a un problème. Et du coup, puisqu'on avait rencontré cette assos, Claudia a créé une page web, elle a dit que ceux de l'assos qui sont en région parisienne, c'est une association nationale, donc il y en a un peu partout en France, donc elle a dit ceux qui sont dans la région parisienne, il y avait une vingtaine de familles, que mardi après-midi, on va au Palais de la Découverte. Si vous voulez nous accompagner, on ira bien ensemble. Bon, ce mardi-là, on est allé seul. Mais petit à petit, 2 semaines après, 3 semaines après, il y a une famille qui s'est inscrite sur la page du site en disant que nous, on va venir la prochaine fois avec vous. Puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et aujourd'hui, 16 ans après, il y a 1300 familles en région parisienne. Il y a plusieurs sorties par jour qui se fait, et du coup on a juste l'embarras du choix de dans quel coin de Paris, quelle sortie on fait, quelle activité on fait, voilà, il y a plein de choses.
Vous avez et donc c'est ta femme qui a monté ça, c'est ça?
Ouais.
Ou d'accord, c'est elle y est toujours,
elle a monté, elle organise toujours, oui. Nous maintenant nos enfants sont grands, mais elle continue à participer. Une des activités, c'est la chorale, par exemple. On a un chorale parent enfant, et ailleurs les chorales, c'est soit des enfants, soit c'est des parents. Nous, c'est chorale parents à fond. Et du coup, on loue une salle de la mairie, on fait appel à un musicien qui vient et qui, ça fait des années qu'il travaille avec nous. Donc, il joue sa guitare et les enfants et les parents chantent. Voilà.
Avant de parler un peu plus du quotidien, un petit point sur la loi. Parce qu'il y a une obligation. Alors, je vois à peu près de quoi la différence. Il y a une obligation d'éducation, c'est ça, en France?
Voilà, alors la loi,
aux yeux de la loi.
Dans les termes, l'enfant a droit à l'instruction. Voilà, donc l'instruction est obligatoire, mais pas l'école. Donc, on peut instruire quelqu'un de maintes façons différentes. Donc, ça, c'est le texte de la loi avec lequel je ne suis pas d'accord.
Pourquoi?
Je ne suis pas d'accord. Si on se disait les moustaches sont obligatoires, ça veut dire quoi? instruction obligatoire. Mon enfant va apprendre à marcher, forcément, tous les enfants le font, et tous les enfants le font à peu près au bout d'un an. Mon enfant va apprendre à parler n'importe quelle langue, il y a des milliers de langues qui sont parlées au monde, et tous les enfants apprennent leur langue maternelle au bout de 2 ans. Et ceux qui sont dans des régions frontalières apprennent 2 langues. Ceux qui sont dans d'autres régions du monde où il y a plusieurs langues mélangées dans les mêmes trucs, ils apprennent plusieurs langues dans le même temps. Donc, c'est étonnant qu'on dise que pour lire, il faudra faire quelque chose. Pourquoi on ne fait pas confiance qu'au même titre que l'enfant a marché, parlé, appris à rire et à jouer, à observer, à manger, à apprécier ou ne pas apprécier le goût d'un aliment, pourquoi il ne va pas apprendre à lire ? Ça va venir, puisque c'est dans nos contrées, la lecture, les lettres, les mots sont un peu partout affichés, donc forcément il va s'intéresser. Et par exemple, à Paris, il y a beaucoup de P, parce qu'il y a beaucoup de parking. Donc on voit la lettre P affichée, voilà, un P, voilà, partout. Et quand l'enfant est dans sa poussette, elle est un peu penchée comme ça, elle est vraiment dans son champ de vision, les P qu'il y a sur toutes les bornes de paiement des parkings. Donc elle a posé la question un jour, c'est quoi ça ? Puisqu'elle le remarque. On l'a dit, c'est un P, comme papa. Voilà. Et après, 10 minutes après, sur une plaque d'immatriculation, elle dit, ça aussi c'est un P. Voilà. Donc sa première lettre, c'était le P et pas le A. Voilà. Et puis les autres viennent parce que c'est elle qui fait la relation, que, ah oui, mais il y en a d'autres. Ah oui, mais c'est un lien avec les sons qu'on fait avec la bouche quand on parle. Et ça s'organise d'une certaine manière. Il les découvre. C'est un plaisir de cette découverte pour cet enfant et pour tout le monde. Et du coup, elle apprend à lire un jour. Voilà, comme ça. Sans éducation, sans instruction. Je ne lui ai pas dit que oui. Les instructions, c'est pour un programme. On écrit un programme, ouais. On met des instructions les uns derrière les autres. C'est des ordres que ça doit être exécuté. Alors que la lecture, c'est pas comme ça. C'est comme la vision, comme l'écoute. On entend, on voit, on lit. Voilà.
Donc vous n'avez jamais passé de temps avec vos filles à faire des cours, entre guillemets, de... Alors tu vois, P plus A, ça fait
non,
pas...
Non, pas de...
Waouh.
Pas de temps de lecture. Mais on a passé du temps, par exemple, elle jouait aux Sims.
Ouais.
Et il y a 200 menus dans Sims, voilà, les robes, les tables, les chaises, les appartements, enfin, il y a mille et une choses à placer à droite, à gauche. Et du coup, elle nous appelait, qu'est-ce que c'est marqué ici ? On lui dit. Nous, on le dit, elle voit la chose, elle fait ses déductions. Et puis, au bout d'un certain temps, puisqu'elle a appelé 20 fois dans la journée ou 20 fois dans l'heure, on lui dit, là, ça suffit pour aujourd'hui, débrouille-toi un peu toute seule, on va voir le reste demain. Donc on était présents, on a répondu, parfois on a été fatigué, on n'a pas répondu, mais voilà, un jour, l'enfant arrive à lire. Puis un jour, elle arrive à écrire. Donc c'est tout à fait... Moi, Oriane, elle avait, je ne sais plus, elle avait 3 ans, elle me dit que... je suis informaticien, donc on a plein d'ordinateurs à la maison. Elle me dit qu'elle, sur son ordinateur, elle avait un ordinateur, c'était un vrai ordinateur, mais s'il y avait un clavier avec des grosses touches, des carrés, des ronds, des triangles, et puis des couleurs, vert, bleu, jaune. Donc elle jouait avec ça. Et elle me dit que moi, je fais quelque chose sur mon ordi qu'elle, elle ne fait pas. Et puis je lui demande quoi, elle a du mal à expliquer, et puis je lui dis, viens, montre-moi. Je me mets à mon ordi, je l'allume, mot de passe, je saisis mon mot de passe, elle dit ça. Son ordi n'avait pas de mot de passe. Quand on l'allumait, ça s'allumait tout de suite. Elle dit qu'elle veut faire la même chose que moi. Elles imitent les parents, elles imitent l'environnement. Du coup, je lui dis, oui, mais avec ton clavier, avec des ronds et des carrés, tu peux pas mettre un mot de passe. Elle a dit, mettons un clavier normal. Donc on lui a mis un clavier normal, on lui a écrit son prénom Oriane comme mot de passe. Je lui ai dit, A-U-R-I-A-N-E, voilà, c'est ton prénom et ça s'écrit comme ça. Genre ça a pris 20 secondes Et elle a mémorisé pendant ses 20 secondes, puisque c'était, elle était totalement motivée de faire comme moi. Du coup, elle ne voulait pas rater son première expérience. Et elle l'a fait, elle a eu son mot de passe, elle était toute contente. Voilà, et du coup, elle a appris quelque chose du... Mais je ne l'ai pas dit béaba.
C'est fou. Pour moi, il y a aussi un des trucs, c'est que l'école sert pour plein de parents et nous les premiers, parce qu'on est on travaille tous les deux, par exemple, en tant que couple, de garderie avec plein de guillemets. Hein. Désolé les profs qui nous écoutent, c'est pas du tout péjoratif pour vous. Mais comment vous avez fait pour vivre avec elles au quotidien alors qu'elles n'étaient pas à l'école ?
Bah, il faut du temps, effectivement. Il faut dégager du temps. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Pour dégager du temps, il faut travailler moins. Quand on travaille moins... on gagne moins d'argent. Quand on gagne moins d'argent, il faut dépenser moins d'argent. Donc, on a réduit notre surface de vie parce que, voilà, on gagnait moins. Donc, moi, j'ai travaillé 4 jours par semaine au lieu de 5. Claudia a regroupé ses cours sur 3 jours. Du coup, elle a dégagé 2 jours. Et puis, les deux grands-mères qui étaient proches, qui étaient à Paris aussi, donc, on a réussi à couvrir les 5 jours de la semaine ouvrés. Et pendant un certain temps, jusqu'à la naissance de notre troisième fille, en fait. Et après, Claudia a changé de métier, elle a quitté l'éducation nationale et elle a ouvert une maison d'édition. Elle est devenue éditrice.
Okay.
Et du coup, le travail d'éditrice, c'est de lire essentiellement les écrits des auteurs et les corriger et rentrer en commun. Et du coup, ça, elle a pu le faire de la maison. Elle a fait son travail d'éditrice de la maison le soir essentiellement, parce que dans la journée, elle était avec les enfants dans les activités à droite à gauche. Donc effectivement, il faut arriver à dégager du temps. C'est pas forcément facile, mais l'enjeu est grand. L'enjeu, c'est la vie, c'est le temps qu'on a avec nos enfants. Et du coup, moi je me pose la question, est-ce que vaut mieux que je laisse un appartement en héritage à mes enfants quand je ne serai plus là, ou je leur offre 12 ans de disponibilité quand je suis là et elles sont là. Et bon, j'ai opté pour les 12 ans et l'appartement, on s'en fout.
Est-ce qu'elles sont OK avec l'idée aujourd'hui qu'elles sont grandes ou pas ?
Ah bah oui, elles
sont... J'aurais préféré avoir un appart, hein, vraiment. comment ça s'est passé par exemple avec tu parlais au tout début de ton entourage qui n'était pas tout à fait d'accord, ouais. etc. Et j'imagine que le fait de les laisser à leur grand-mère deux jours par semaine, c'est ouais. ça ça a pu créer
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'avais des frictions à un moment donné parce qu'elles n'avaient pas forcément la même vision des choses, non ?
Oui, alors on a la chance d'avoir des grand-mères qui, bien qu'elles n'étaient pas d'accord, elles nous ont soutenues. Elles sont pas rentrées en conflit avec nous. Elles sont toujours pas d'accord avec le choix. Mais
encore aujourd'hui.
Alors, ma mère, elle a accepté que finalement c'est bien, c'est des enfants, ils sont grands, Dorian, elle a 19 ans presque, donc voilà, elle est.
puis moi, elle m'a envoyé un mail, elle écrit super bien et tout.
Voilà, oui.
Non, je dis ça parce que c'est un vrai cliché qu'on a, je pense, en tête après que les Nonsco, alors parce qu'on sait leur petit nom, hein, c'est ça.
Oui,
les Nonsco,
c'est ça, Nonsco. Oui.
Ont tendance à avoir des lacunes d'écriture, etc. C'est complètement faux, quoi.
Oui, et puis il y a tellement de, elles ont une de leurs copines qui n'avait pas voulu faire l'effort d'écriture, voilà. Donc elle écrivait quasi phonétique et même le phonétique était difficile à déchiffrer. Et du coup, elle était sur les réseaux sociaux. Je sais pas sur quel réseau les jeunes sont, mais en tout cas, elle chattait, elle envoyait des messages, elle recevait des messages avec ses amis. Et un jour, les amis ont dit il y en a marre, on n'arrive pas à déchiffrer ce que tu écris, fais un effort. Elle l'a fait. Voilà. Mais la motivation est venue de l'usage de communication avec ses amis. Et ce sont ses amis qui lui ont dit, c'est pas son père qui lui a dit, ah bah oui, tu as écrit mal tel bonjour, par exemple.
Tu vois, c'est un truc que je fais systématiquement, c'est que je corrige mes filles quand elles font m'envoient des SMS et il y a des fautes. Et en fait, mais je me rends compte en t'écoutant que c'est un peu idiot parce que. C'est ma conception à moi qui a tendance à juste leur dire, en fait, fais attention parce que quand t'écris ça, tu fais une faute, quoi, tu vois, tout simplement.
Oui. Alors, moi, je le faisais en deux temps. Les premiers mails que Oriane m'a envoyés quand elle était toute petite, j'étais au bureau. Donc, je réponds à sa sollicitation. Et puis, un deuxième mail en disant que, d'ailleurs, tu as écrit tel mot comme ça, mais ça s'écrit comme si. Voilà.
Oui, c'est pas juste.
Oui, puisque enfin, le but, c'est de la communication. De si j'ai compris ce qu'elle voulait, je dois répondre.
Oui,
c'est premier. Mais après, on peut rectifier quelque chose. C'est comme ça. La société a choisi des règles de discrimination. Parce que, in fine, oui. C'est pourquoi ? C'est pour pouvoir dire à quelqu'un, ah, toi, tu sais l'écrire, donc tu auras 2 centimes de plus de salaire, et toi, tu ne sais pas écrire, donc tu vas faire une tâche ingrate. Voilà. C'est pas pour autre chose. Donc, l'idée de contrainte artificielle à travers la grammaire est déjà, socialement, pour moi, quelque chose de pas très heureux. Mais bon, on est dans cette société, on vit avec, et donc on joue le jeu, c'est tout.
Ça vient d'où, toi, cette vision des choses complètement... j'ai l'impression que tu vis à 3 bornes au-dessus de nous et que tu nous regardes en disant « Dis donc, vous faites bien chier pour pas grand-chose, hein, vous !» Non, mais tu sais, de parler des règles, de contraintes, etc. Mais ça te vient d'où, ce courant de pensée ?
C'est pas un courant de pensée.
C'est une vision des choses, quoi. Tu vois
oui, mais moi, j'étais donc en Iran... dans l'école où j'étais, tous les ans, on passait un examen pour passer d'une classe à une autre. C'était pas comme en France. Voilà. Donc, c'est un examen. Donc, mes 12 examens, j'ai 12 fois échoué à l'orthographe. Et 12 fois rattrapage en septembre. Donc, tous mes étés ont été pourris par l'orthographe. Et je me demandais, mais pourquoi ? Pourquoi on est en train de m'infliger ça ? J'y arrive pas. C'est comme... Par exemple, je suis daltonien.
Oui.
Je l'ai appris bien après, à 15 ans, que oui, je ne voyais pas comme les autres. Voilà. Mon père me dit, va arroser le ficus. Et je lui dis, celle qui a des feuilles marrons. Il me dit, mais non, il n'y a pas de plante à feuilles marrons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il me demande couleur, je nomme. Et on se rend compte qu'on n'a pas... On nomme pas les couleurs pareilles. Et bon, c'est comme ça. Si on voulait me faire passer des examens sur des tests de couleurs chaque année, j'aurais échoué chaque fois. C'est exactement pareil. Si j'arrive à mémoriser des trucs ou comprendre des trucs en chimie, mais je n'arrive pas à le faire en orthographe, c'est que mes neurones sont câblés d'une manière qui aime plus la chimie que l'orthographe. Et ce n'est pas un tard. C'est horrible de punir quelqu'un pour ce qu'il est. Et du coup, c'était pour moi évident que ça, c'est une contrainte désagréable qu'on m'inflige. Voilà, je pouvais pas... J'avais pas pensé à dire à mon père « Oui, mais je veux pas faire de l'orthographe. » J'avais totalement intégré l'idée que l'école est obligatoire, c'est bien pour moi, il faut que j'y aille. Voilà, c'est comme ça. Mais dès qu'on réfléchit 2 minutes, on s'en rend compte. Et puis en plus, on a dans le même cours de l'école, quand on nous parlait des scribes égyptiens, comment ils profitaient de leur position parce qu'ils savaient écrire et lire, et du coup les autres on les traitait d'esclaves. C'est de la connaissance banale d'écolier. Donc ben voilà, on me l'a dit. J'ai constaté que oui, c'est vrai. Et j'ai vu que, ah oui, mais on continue à le faire avec moi. Donc.
Je vois ce que tu veux dire.
Comment. Alors, d'une manière plus générale, alors je vois bien l'idée de laisser l'enfant choisir vers les choses vers lesquelles. Il y a un truc que tu as dit au tout début, que tu n'avais pas du tout envie d'avoir d'influence, ou de. Tu as même carrément dit, de façon peut-être un peu provoque, que c'était un manquement, en fait,
oui.
en tant que parent. Ça se concrétise comment ?
Bah, c'est pas que. On a des échanges. On a des échanges constructifs. On a des échanges qui se transforment en tensions parfois. On a des. Voilà, c'est banalement la vie. Mais je n'ai pas d'attente de mes enfants. Et j'ai. Voilà, si je dois résumer ce que pour moi Nonsco veut dire, ça veut dire 100% confiance et zéro attente. Je n'ai pas des ambitions pour mes enfants. Je ne veux pas qu'elles deviennent médecins, ministre ou peintre. Voilà.
Mais tu aurais très bien pu ne pas avoir d'attente de tes enfants en les mettant à l'école et en les laissant.
Ben non, si je mets à l'école, c'est parce que. Pourquoi je les mets à l'école, hein? L'école partout, c'est affiché, c'est comme la vitrine des Galeries Lafayette. Soyez le premier de la classe, vous réussirez, vous aurez un bon job et un bon salaire. C'est...
Tu veux dire que l'environnement.
L'environnement est en train de vendre l'école comme le chemin de réussite. Et du coup, les gens ont intégré. La semaine dernière, on était, il y a deux semaines, on était en vacances en Allemagne. Donc, dans un resto, on paye le restaurant. Et contrairement en France, le service n'est pas inclus là-bas. Et du coup, la serveuse demande de combien on veut mettre de pourboire. Bon, on dit un chiffre. Et elle fait une remarque comme quoi, parce qu'elle, elle a pas écouté ses profs, elle n'est que serveuse. Voilà. Pour moi, c'est une situation triste qu'un être humain a totalement intégré qu'un autre, il y a, je ne sais pas, 30 ans, lui a dit un truc, elle ne lui a pas écouté, et son job d'aujourd'hui est lié à ça. C'est pas quelque chose à faire. S'il devait y avoir une loi, ça devrait être interdire ce genre de comportement humiliant de la part de la société envers les autres. Et du coup, je ne l'ai pas fait avec mes enfants, c'est tout. J'étais normal avec mes enfants, comme je le suis avec mes collègues, avec toi, avec n'importe qui. Ce qui ne veut pas dire que tout est beau. Il y a parfois des différends et on montre qu'on n'est pas content avec quelque chose et on ne le souhaite pas. Et l'autre l'entend, ça peut prendre 2 heures de discussion pour le comprendre, mais c'est pour moi, c'est pas pour elle. Et quand elle dit quelque chose, elle doit le dire pour elle, pas pour moi.
T'as eu des actes, parce que donc 19 ans, elle a eu l'adolescence, etc. T'en as une d'ailleurs qui est sans doute en pleine
adolescence. Elle a 13 ans, Lila, elle a 13 ans. Ouais.
Quand il y a eu des frictions, etc., t'as eu la sensation d'avoir des actes d'autorité ou de leur avoir empêché ou interdit de faire des choses à un moment donné. Parce que t'as l'air d'être tellement permissif au sens le plus noble du terme. Oui. Hein, d'accord pas...
Alors, j'y avais un interdit à la maison. Que d'ailleurs j'ai appris bien après qu'ils n'ont pas respecté, donc voilà. j'avais vu une émission qui était les Teletubbies, et elles étaient toutes petites, et ça m'avait en mon intérieur, ça m'avait crispé, ça m'avait vraiment, je m'étais dit, ah, ça c'est, je veux pas être dans une société où ça c'est les émissions. C'est totalement débilisante. C'est un acte délibéré d'emprisonnement de la pensée. Et je voulais pas que mes enfants. Et puisque c'est un acte délibéré, je le sentais comme ça, je me dis que, bah, y a quelqu'un qui a un intérêt, qui a pensé ce truc-là, il a créé cette émission-là, il ne peut pas l'avoir fait comme un... C'est pas un divertissement, c'est pas un dessin animé quelconque. Il y a un message lourd et fort derrière que je veux pas, mes enfants doivent avoir d'abord de la force avant de pouvoir supporter ce truc-là. Et tant qu'elles sont fragiles et l'ont pas, je veux pas qu'elles voient. Donc voilà, ça c'était, je voulais pas qu'elles regardent Teletubbies, c'était la seule chose que je voulais pas qu'elles regardent. Mais après, j'ai appris que par curiosité, ma femme leur avait montré un peu, voilà. Mais ils n'avaient pas apprécié, du coup, c'était... L'affaire était réglée.
Il n'y a que là-dessus que tu as bloqué à la télévision, parce qu'il y a plein d'autres choses.
Comme interdit. Ouais. Maintenant, il y a plein d'autres choses. Moi, j'ai des lubies personnelles. Lubies, je ne sais pas si c'est le bon mot. Je suis particulièrement sensible quand on parle la bouche pleine. Je peux pas, je supporte pas ça. Et du coup, bah, j'ai dit à mes enfants, quand on est en train de manger ensemble, quand je suis présent, s'il vous plaît, faites attention à ma sensibilité. Voilà. Et bah, voilà. Et par respect d'autrui, elles le font. Et puis c'est pas quelque chose de très très difficile à faire. C'est pas que ah oui. Il leur manquera quelque chose si elles parlent la bouche pleine. Donc, elles le font et c'est comme ça. Voilà, du coup. Mais ça, c'est les exigences des uns des autres qu'on exprime et que chacun s'adapte. Donc, ce n'est pas des obligations ou des interdits, c'est de tenir compte de l'autre, c'est tout.
Comment ça se passe avec le reste du monde ?
Très bien.
Alors, pour toi en tant que père, pour vous en tant que parent et pour tes enfants. Je te dis ça parce qu'on sur Mademoiselle, on a eu, je le mettrai dans les liens,
oui.
Une jeune fille super qui s'appelle Ayla.
Ayla,
qui...
oui, c'est la copine de mes
alors,
filles.
Alors, en plus,
ouais,
voilà.
Voilà, on s'est... Bah, du coup, on a créé ce site. Il y a 1300 familles dans la région parisienne. Forcément, on fait des activités ensemble et voilà.
Elles ont à peu près le même âge.
Elles ont à peu près le même âge. On n'est pas très loin. Donc,
Et les commentaires sur YouTube étaient extrêmement durs. Je pense que tu amènes aux gens une telle différence de point de vue par rapport au cadre dans lequel ils sont éduqués et élevés et ils ont grandi depuis le plus jeune âge que de venir leur dire en fait un autre truc est possible.
Oui.
C'est tellement compliqué que ils ont plutôt tendance à réagir de manière soit jugeante, soit même parfois agressive en fait en disant mais comment tu vas faire pour t'en sortir dans la vie quoi.
Oui.
Comment tu le vis comment toi, tu le vis, toi, à titre perso, comment ça, est-ce que vous avez déjà eu des altercations avec d'autres?
J'en ai eu une fois où je travaillais dans une grosse entreprise et donc à la cantine à midi, je leur dis que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Alors on me demande pourquoi, je dis on part en vacances en montagne. Et puis le gars qui est en face de moi, il me dit...
les vacances.
Mais tu as des enfants. Je dis oui, mais ce n'est pas les vacances. Et je dis, ouais, mes enfants ne vont pas à l'école. Et là, une cantine d'entreprise de 300 personnes, tout d'un coup, tu entends, une autre table, il y a 30 personnes sur la table, tout d'un coup, un bruit, le silence s'impose. Plus personne ne parle. Le directeur du projet dans lequel je travaillais s'énerve. Comment ça ? Il veut rompre son contrat de travail avec moi parce qu'il ne veut pas travailler avec quelqu'un qui met ses enfants en danger. Je ne suis pas quelqu'un digne de confiance. Donc il a fallu 2-3 heures après le déjeuner pour que je le convainc que c'est ma vie privée, ça n'a rien à voir avec mon activité professionnelle.
Ça n'empêche pas de faire de toi un très bon professionnel, j'imagine.
Voilà, oui, c'est... Bon, il a accepté, mais ses derniers mots, au moment où je sortais de son bureau, c'était « Oui, mais tu te trompes ». D'accord. Je me trompe, mais je prends responsabilité de mes erreurs. Et c'est ce que j'avais dit aux grands-parents aussi. Elles avaient beaucoup de peur et on peut, elles sont impliquées, c'est leur famille.
Oui.
Du coup, je leur ai dit, mais on va pas... C'est pas une explosion. L'enfant est en train de grandir un jour par jour. Et si jamais vous êtes présent, vous la voyez régulièrement... Si vous vous rendez compte qu'on est en train de dérailler, on est devenu des Martiens violents et asocial, bah vous dites stop, là vous êtes en train de dépasser les bornes. Mais ça va venir forcément petit à petit, ça ne va pas être du jour au lendemain. Et du coup, vous verrez, et du coup, vous nous alerterez sur ça ne va pas. Donc, ça peut, voilà, et tant que ça va, bah, ça va. Et puis, un jour, les enfants ont commencé à lire. Du coup, ma belle-mère, elle était toute contente, toute étonnée qu'on n'a pas, fait de cours de lecture, mais ils ont appris à lire. Donc, pendant quelques années, elle était toute contente. Mais après, là en ce moment, elle est revenue sur... Certes, elles savent lire, mais elles ne lisent pas les bons livres. Elles ne lisent pas les classiques. Et elle veut qu'on lise certains livres. Bah, je lui dis, non, elle lise Harry Potter. Bah, c'est très bien.
C'est très bien,
Harry Potter. Ou d'autres, je ne connais même pas.
Puis peut-être plus tard, elles liront des classiques si elles en ont envie.
Si elles ont envie, voilà. Tout à fait. Il n'y a, aucune raison de dire qu'à tel âge, il faut avoir lu tel livre. Non, ça n'existe pas pour moi. Du coup, oui, c'est assez... Quand ça vient d'un collègue et qu'il risque de casser le contrat, c'est dur. Quand ça vient d'un inconnu dans la rue qui... parce que j'ai des t-shirts que l'école n'est pas obligatoire, du coup, parfois, je vais sur Paris-Plage et
je fais de la provoque.
Du coup, il y a des gens qui arrêtent et qui commencent à discuter.
Tu me cherches un peu aussi, si tu mets un t-shirt.
Je me dis, c'est de l'information. je fais. C'est vrai, elle n'est pas obligatoire, il faut que ça sache. Quand les profs en parlent, nous, une des copines de mes filles, qui allait à l'école, un jour, sa prof lui dit que l'école est obligatoire. Je ne sais plus exactement dans quel contexte elle dit ça. Et cette fille répond que non. Et la prof dit comment ça non? Elle dit oui, mais j'ai des copines qui n'y vont pas. Alors les parents de cet enfant ont été convoqués à l'école. Et la question du prof, c'était comment vous avez laissé votre enfant apprendre ça? C'est comme si c'était un secret de société qui était gardé et il ne fallait pas qu'ils sachent et qu'ils n'avaient pas fait leur job en révélant le secret. C'est
un peu flippant.
C'est flippant.
Ok. Tes filles ne t'ont jamais demandé d'aller à l'école au long de leur enfance?
Non, elles n'ont pas demandé, mais la Lila, qui a 13 ans aujourd'hui, elle a décidé qu'elle veut aller au lycée. Donc, elle a dit que quand elle aura l'âge de lycée, elle voudra y aller. Et on lui a dit, d'accord. Et puis, elle a dit que, étant donné qu'elle ne veut pas qu'on lui dise qu'elle n'a pas des connaissances suffisantes et qu'on le refuse, il faut qu'elle sache les choses que les écoliers savent. Et on a dit, ok, du coup, on a acheté les programmes, les annales, je ne sais pas quoi. Je comprends tout, c'est une série de livres comme ça. Et du coup, de temps en temps, elle en sort. Si c'est sur la science, elle vient le faire avec moi. Si c'est sur autre chose, elle le fait avec sa maman. Et puis, elle est en train de se préparer à son rythme, avec sa volonté. Comme si elle disait que j'aimerais bien aller à la piscine et il me faut des lunettes de bain, elle est en train de se préparer pour le jour où elle ira au lycée, qu'elle le fera. Maintenant, on verra ce que ça donnera.
Alors, ta grande fille, qui a 19 ans,
oui.
Elle a une idée de ce qu'elle veut faire dans la vie ensuite? Comment
non,
ça se goupille?
Non, pas très... Elle a passé le bac cette année, elle l'a eu.
Donc, elle a passé en candidat libre.
En candidat libre, elle est en candidat libre. Donc c'est la deuxième fois qu'elle le passe. Elle l'avait passé l'année dernière, elle l'avait raté. Et elle l'a repassé cette année, elle l'a eu. Voilà.
C'était quoi son objectif
passer le bac? Au début, elle avait dit pour le bac français, donc en première.
En première, oui.
Elle avait dit, elle voudrait voir c'est quoi un examen. Voilà. Mais pour moi, c'est comme si elle me dit, je voudrais voir
l'expérience.
Voilà. Et du coup, on l'a dit, vas-y, on t'inscrit. On a dit, voilà. Du coup, on a dit, y a plein de bacs différentes. lequel tu veux. Puis elle a choisi le bac L. Voilà, on a dit, voilà, elle l'a préparé un tout petit peu. Et puis elle est allée, elle se vautrait complètement. Et en anglais, elle a eu des notes correctes. Voilà, mais en français, elle a eu 2 ou un truc comme ça. Parce qu'elle ne connaissait pas du tout les livres qu'on interrogeait dessus. Et voilà, elle a dit, ok, bah, j'ai fait l'expérience, bah, voilà. Mais elle avait eu quand même une moyenne, je ne sais pas, 7,5, quelque chose comme ça. Enfin, j'oublie peut-être les notes, elle me corrigera si elle écoute. et moi, j'ai dit, ah, bah, c'est quand même pas mal pour avoir strictement rien fait. D'autres ont passé 12 ans de leur vie avant d'atteindre ce stade. C'est trop cher payé. Et du coup, je lui dis, ah bah, l'année prochaine, en terminale, bah, si tu tentes exactement pareil, on ne sait pas. Le but, ce n'est pas d'être, d'avoir les félicitations du jury. Le but, c'est d'essayer et de voir. Voilà. Donc, elle a essayé. Elle a eu 8,5 de moyenne, je ne sais pas. Et donc, elle n'a pas eu les rattrapages. Mais c'était quand même très ric-rac. Et moi et mon frère, son oncle, lui ont dit, ah ben quand même, c'est dommage de ne pas l'avoir. Enfin, je ne sais pas pourquoi on l'a dit, c'est peut-être pression sociale ou autre. Et elle a dit, ok, mais les choses que je n'aime pas, je ne travaille pas du tout. Et le reste, je veux faire un effort. Par exemple, en français, il fallait qu'elle lise 2 ou 3 livres qui sont au programme. Ben, cette année, elle les a lus. Bah, l'année dernière, elle ne les avait pas lus, du coup, voilà. Bah, l'ayant lu, en plus, il y en a un des livres que ça lui a plu.
Mais c'est une stratégie que font beaucoup de lycéens, d'ailleurs, hein, oui. De faire l'impasse sur certaines matières qu'ils détestent.
Oui, tout à fait.
Avec les coefficients, voilà. Le jeu des coefficients, tu peux finir par avoir ton bac. Quoi.
Tout à fait. Donc, elle l'a fait, elle l'a eu, bah, voilà. Donc, mais elle a pas fait pour un but d'études d'après ou un travail. Alors, ça se trouve qu'elle-même... Elle est pas mal intéressée à des vidéos, des montages vidéo, c'est des choses qu'elle fait. Et moi, j'avais un client qui cherchait quelqu'un pour lui faire un vidéo. Je lui ai dit, bah, j'ai ma fille qui aime faire ça, sauf qu'elle n'est pas pro, elle l'a fait en amateur chez elle. Voilà, ça l'amuserait de le faire, surtout que vous ne savez pas ce que vous cherchez. Donc, vous allez à un pro, il va vous poser plein de questions, vous n'avez même pas les réponses. Donc, voilà. Et du coup, ils se sont rencontrés et du coup, ils lui ont confié un projet d'un montage vidéo voilà, qu'elle est en train de faire. Voilà, ça l'amuse. Maintenant, on verra si c'est suffisamment amusant pour le transformer en métier ou elle va trouver autre chose un jour.
T'as vraiment, c'est un truc... qui est très rare, hein. J'ai l'impression que t'as pas peur pour l'avenir de tes enfants.
J'ai 100% confiance en mes enfants. 100% confiance qu'elles feront de leur vie ce qu'elles veulent. Et elles ont les moyens de le faire parce qu'elles ont confiance en eux-mêmes. Et si elles veulent quelque chose, si elles décident de, tiens, elles veulent être chirurgien-dentiste demain, bah elles savent que voilà, il y a une barrière à franchir pour le faire. Elles le franchiront, mais la motivation doit venir d'elles. Ça ne peut pas venir de moi.
Mais t'as ce lâcher-prise, entre guillemets, mais t'as aussi, je pense que l'un des gros trucs qui caractérise les parents aujourd'hui, c'est qu'ils ont extrêmement peur pour l'avenir de leur môme, d'une manière générale. Enfin, t'as pas l'air de savoir de quoi je parle, en fait.
Je sais pas de quoi tu parles, parce que moi, j'ai peur de... Moi, je constate notre société, je constate des gens qui ont fait beaucoup d'études, qui sont au chômage et qu'on a un président qui leur dit « Vous pouvez traverser la rue, vous trouvez du boulot. » Voilà, ça c'est la réalité. C'est un fait, pas un débat. Voilà. Et moi, ça me fait peur, cette société. Voilà. Et du coup, bah, j'ai choisi... je me dis, on a une plus grande chance en faisant autrement qu'en faisant comme ça. Voilà, moi aussi j'ai peur, mais de l'actuel, de l'état dans lequel on est, je veux un autre état. Et du coup, bah, mon petit pas dans cette autre direction, c'était que laisser le choix à mes enfants de se coordonner avec le reste de la société à leur rythme.
Trop bien. Merci beaucoup, Freddy.
Merci, Fabrice.
C'était hyper intéressant. Alors, je ne sais pas ce que les auditeurs vont en penser. T'amènes une toute autre vision des choses et c'est très rafraîchissant. J'ai une question que je pose à chaque fois à mes invités. C'est alors je sais pas comment on peut le faire avec toi parce que c'est sans doute la première fois que j'ai quelqu'un qui a des enfants aussi grands. Mais imagine tes enfants, donc elles auront 23.
Alors elles ont 19, 16 et 13
voilà,
maintenant.
23, 26 et 29. T'imagines, voilà. Elles seront grandes et tout.
Oui. Et
qu'est-ce que t'aimerais leur dire?
Soyez vous-même.
Oui, ça va. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Freddy. C'était super bien.
D'accord,
pour les gens qui souhaitent connaître.
Je te donnerai les liens.
Je mettrai les liens qu'il faut. Un immense merci pour ton temps passé. C'était trop bien. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors, une petite annonce, comme je le fais systématiquement depuis plusieurs épisodes. Ce podcast va devenir une partie intégrante de mon nouveau projet de magazine pour accompagner nos futures lectrices et nos lecteurs dans leur vie d'adulte. Il va sortir dans quelques mois, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à notre newsletter. Je vous mets le lien dans les notes du podcast. Pour l'instant, le nom de code, c'est Projet Madame, mais ça sera pas son vrai nom, bien sûr. Vous recevrez tous les jeudis un email où on vous raconte un petit peu l'avancement du projet et on vous pose aussi des questions. Merci d'avance à vous et merci de partager aux amis qui pourraient être intéressés selon vous. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook qui s'appelle Histoire de Daron ou alors sur Instagram, je suis sur Fab Florent, FabFlorent. Venez également commenter sur la chaîne YouTube, vous trouverez le lien de l'épisode dans les notes du podcast. J'adore recevoir vos messages et je fais vraiment en sorte de répondre à tout le monde, même si vous êtes très nombreux à m'écrire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Histoire de Daron. D'ici là, je vous souhaite une très très belle vie.